Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.FM or live from our studio. Potpourri Show targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands, and features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target, Potpourri Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m., in partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.pourri@simpatico.ca.
ONFR, c'est la production web télé du groupe Média TFO dédiée à l'actualité politique de l'Ontario.
Effectivement, il y a des problèmes de transport majeurs dans la partie nord de la province.
C'est la seule production francophone d'information et d'affaires publiques dans la province qui suive la nouvelle au-delà du cycle habituel des 24 heures.
Le droit de parole, c'est un droit acquis.
ONFR, c'est d'abord une présence continue sur Twitter. L'information à l'état brut.
Comment ces changements-là sont-ils accueillis dans le nord?
Les nouvelles de dernière heure. Et une communauté d'abonnés de plus en plus nombreuse qui continue à croître de 10 à 15% par mois.
Restez branchés sur notre compte Twitter pour tout savoir.
ONFR, c'est aussi un site web d'information. Une référence quotidienne avec des reportages approfondis.
Il y a bien des questions qu'il faut demander et je pense que c'est des questions que le gouvernement a besoin de répondre.
Des analyses qui font réfléchir, du contenu exclusif.
Et ça, c'est du jamais vu.
Des angles différents de traitement de la nouvelle.
Une situation sans précédent en Ontario.
ONFR, c'est enfin une émission hebdomadaire à la télé et sur le web. Un temps d'analyse et de réflexion pour comprendre l'essentiel de l'actualité politique de l'Ontario. Une tribune crédible où les enjeux les plus marquants à Queen's Park et dans la francophonie ontarienne sont expliqués, décortiqués par une équipe de journalistes chevronnés.
Est-ce que le budget a répondu à ces attentes-là?
Et par le biais d'entrevues et de reportages au cœur de l'action.
Nous abordons tous ces enjeux aujourd'hui avec le ministre de l'Énergie, Bob Chiarelli, qui nous accorde une entrevue exclusive.
ONFR informe et élève le débat sur la scène politique en Ontario.
Bienvenue à ONFR.
Spear. Mr. Ford, I am speaking to you directly. A message from the Francophone community of Ontario, and I want to make sure you understand I'm speaking to you in Shakespeare's language. You must know. We fought for our primary schools and high schools in Ontario, and we won! Mr. Ford, we fought for our Francophone colleges in Ontario, and we won! Mr. Ford, we are fighting for our Francophone university, and we will win!
Show sur CUT 89,5 FM. Une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Potpourri Show, 30 ans déjà. Toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm ou www.popourichaud.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM.
Et vous savez quoi? Vous êtes beau! Vous êtes fort! Et vous êtes fiers! Aujourd'hui, on vit un moment historique. Un moment qu'on va raconter à nos enfants, à nos petits-enfants. Un moment où les francophones de l'Ontario se sont solidarisés aussi avec les francophones du Québec, de l'Acadie, de la Saskatchewan, du Yukon. Et puis on dit ensemble qu'on allait faire en sorte de faire protéger le fait français au pays.
Hello, hello, bien le bonjour madame, messieurs et bienvenue à votre émission hebdomadaire sur la seule, l'unique bande FM au Hot House Studio. Hot House Studio, CIUT 89.5 FM, hello. Mr. Ford, bonjour, j'espère que vous nous écoutez. Merci à tous ces fonctionnaires qui nous ont appelés, ils étaient en grand nombre à nous écouter la semaine dernière et ils sont aussi... au bureau aujourd'hui, ils nous écoutent. Ah oui, ces gens travaillent très dur. Bienvenue à tous nos nouveaux abonnés et partenaires. Merci encore mille fois pour ceux et celles qui ont contribué au succès de notre dernière campagne de Voice of Your City, la voix de votre ville. Et aussi bonjour à toute l'équipe de à la direction du collège La Cité, campus de Toronto. Ils nous ont bien écoutés la semaine dernière. On a eu quelques réactions et peut-être qui seront parmi nos partenaires et invités. Merci à Gilles Marchildon et les étudiants qui ont aussi bien réagi. On espère qu'ils seront de nouveau avec nous. Nous remercions aussi ceux qui nous écoutent en France, en Afrique et à New York, entre autres Action Traitement à Paris, Édition Prise de Parole, la Société d'Histoire de Toronto, le NUSIDA, Savoir, Ses Pouvoirs, Connais-tu ton statut? C'est le thème de la journée internationale, mondiale de lutte contre le SIDA, c'était hier. La Comédie Française, mille merci pour les billets de Cineplex Cinéma, Iceland Bear, qui vous offre un billet aller-retour pour deux dans le cadre de notre campagne de souscription. KHL Productions à Montréal avec Madame Drapeau et un artiste que je vous présente tout à l'heure. Et Théâtre français de Toronto, gagnez les billets tout au long de l'émission de Cinéplex et du Théâtre français de Toronto pour la pièce Les Inspirés, mercredi 5 décembre prochain à 20h. À ne pas rater, c'est une pièce qui fait bouger les gens, nous dit-on. Très bonne réaction depuis les premières présentations et soirée d'appréciation pour nos bénévoles. C'est quand? Semaine qui s'en vient, le mardi 4 décembre. Et l'ingénieur du son aujourd'hui, DJ Devera, Sloan Ballant, merci pour tout le travail que tu fais pour nous. Il est en train de composer ses examens cette fin de semaine. Production animation, votre serviteur depuis 32 ans avec vous, Eric Kader. Et le menu en ce dimanche 2 décembre, nous pensons bien sûr à tous nos amis qui sont à Paris et aussi dans d'autres régions de la France et à l'île de la Réunion, les gilets jaunes, rouges, bleus, jaunes, verts, enfin. Et oui, jusqu'à 13h sur www.cut.fm. Envoyez-nous vos questions, vos commentaires à popourri@cut.fm si vous avez des questions. Aujourd'hui, l'émission l'Ontario français en crise, retour sur les manifestations un peu partout au pays. Mais pourquoi les médias anglophones sont allergiques aux causes des franco-ontariens? Oui, ils sont très timides. Hier, 1er décembre, c'était la journée mondiale de lutte contre le sida. Le thème de cette année, savoir ses pouvoirs, connaît ton statut. Bilan et perspective dans le monde avec l'ONU-SIDA et nos invités partenaires et témoins vivants avec le VIH. Parmi nos invités, Mélanie Jodon, directrice de l'association Action Traitement à Paris, en France, qui nous écoute. Bonjour. Et docteur Pierre-Marie Ricard, chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Bonjour. Ça bouge côté théâtre, la production Les Inspirés du Théâtre français de Toronto qui a été récompensé du prix Dora Mavor Moore pour la saison 2017-2018 en tant que meilleure mise en scène dans la catégorie jeune public revient avec Les Inspirés, l'âge de raison. Une paire de billets réservés aux auditeurs qui nous envoient un message à popourri@cut.fm. Et on accueille Shanda Gibson, metteur en scène, comédienne et artiste vers midi 20. Lancement d'album, grande primeur à l'antenne, le nouveau single Pardonne-moi en version remix de Richie J, la nouvelle star haïtienne à Montréal, il sera des nôtres vers midi. Et je vous rappelle que lancée depuis 2 mois, la saison littéraire 2018-2019 des éditions Prise de Parole bat son plein. Et ce dimanche, nous lançons avec plaisir une très belle histoire de l'Ontario français, Les Dubreuil et le Bois, une histoire de Dubreuilville, de Serge Dupuis et Sophie Blé. Comment expliquer la résilience et la capacité d'innovation de la famille Dubreuil de Sault-Sainte-Marie à la frontière américaine? Notre invité, un des auteurs, Serge Dupuis, spécialiste de l'histoire sociale, politique et intellectuelle des minorités francophones en Amérique du Nord, ainsi qu'à leur rapport historique au Québec. Et grande nouvelle, cette semaine, on en parle dans tous les pays du monde presque, l'UNESCO vient d'inscrire le reggae de Jamaïque, Bob Marley, à sa liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Il était grand temps, n'est-ce pas? Et dimanche prochain, Popourri ouvre ses micros à ses laissés pour compte dans la bataille linguistique qui secoue l'Ontario depuis plus de 2 semaines. Certaines personnes issues de l'immigration se sentent carrément évincées par l'establishment franco-ontarien. Donc aussi dans les débats, les médias, on l'a vu à l'émission, tout le monde en parle la semaine dernière. Vous souhaitez participer au débat, mettre votre haut au moulin, écrivez maintenant, immédiatement, popourri@cut.fm, dimanche prochain, 9 décembre. Pourquoi certains francophones de l'Ontario issus de l'immigration ne sont pas sur la scène des orateurs ou encore sont absents des grands débats dans les médias? Popourri Show, 32 ans déjà, toute la diversité du monde sur votre fréquence. Eh oui, merci. Quel bel après-midi, de résistance, de jouissance, d'être ensemble, de rire, de pleurer, de célébrer cette résistance qui est nôtre. Comme dit un de nos membres sur notre page Facebook, on ne flush pas 400 ans d'existence, de présence, de participation, et ça dans une des langues officielles. Merci beaucoup, monsieur. Les buzz de nos médias partenaires, le mouvement de résistance des Franco-Ontariens a été un franc succès avec des échos au Québec et d'autres provinces. Selon la foule assemblée de la francophonie de l'Ontario, plus de 14 000 personnes, je dis bien plus de 14 000 personnes, étaient aux quatre coins de la province. Pour Gilles Levasseur, professeur de droit à l'Université d'Ottawa, il dit que c'est la première fois de l'histoire que les Franco-Ontariens se mobilisent de la sorte aux quatre coins de la province. Les propos et discours de la ministre responsable de la francophonie au fédéral, Mélanie Joly, et maître Ronald Caza ont enflammé la foule en délire, très remontée sur la colline parlementaire hier à Ottawa. Du côté du gouvernement de l'Ontario, la députée Amanda Simard claque la porte de son parti. Les députés du Parti conservateur sont interdits de parler en public. Les députés et ministres conservateurs étaient tous invisibles hier tout au long de la journée. Selon Doug Ford, les francophones ne sont qu'à 3% de la population. Aucune idée d'où il a eu ce chiffre. La rencontre de vendredi entre Lafaux et Doug Ford n'a rien donné et Lafaux étudie sérieusement les voies judiciaires. La résistance se poétise grâce à un collectif de poètes franco-ontariens mené par André Lasselle. Il dénonce les dernières décisions prises par le gouvernement de l'Ontario. Dire la lumière de notre colère en est le titre. Pour lire ce beau poème, allez sur notre site qui sera mis à jour d'ici ce soir si vous souhaitez souhaitez lire ce poème, Dire la lumière de notre colère, www.popourrichaud.com. En France, la mobilisation des Gilets jaunes a dégénéré hier sur les Champs-Élysées. Un rare déferlement de violence à Paris où des véhicules, restaurants ont été incendiés, des magasins pillés, des policiers attaqués. La mobilisation des Gilets jaunes a donné lieu à des scènes de chaos, fermement condamnées par le chef de l'État qui était à l'étranger, hein, au sommet du G20, n'est-ce pas? 287 personnes au moins ont été interpellées et 110 blessées, dont une est en urgence absolue. Une cellule de crise a été créée par le gouvernement français. L'île de la Réunion, les Gilets jaunes ne décollèrent pas malgré l'intervention du gouvernement français. Et en direct de Paris ce matin, grâce à Radio France Internationale, c'est France First. Étudiants africains dégagent. À Paris, sur la place du Panthéon, quelques centaines d'étudiants se sont réunis hier pour protester contre la hausse des droits d'inscription. Ils demandent au gouvernement de reculer sur sa décision d'augmenter les droits d'inscription pour les étudiants étrangers. Ils sont des pays du Maghreb, hein. On sait qu'au Liban aussi, il y a des jeunes qui sont très mécontents, mais un peu partout en Afrique francophone. Certains rêvent même de voir le mouvement des étudiants qui s'amorce rejoindre celui des Gilets jaunes. Mais ce n'est ni le souhait de l'UNEF et les 14 associations étudiantes étrangères, celui de la FAGE. Et je vous rappelle qu'il y aura une autre grande mobilisation, journée de protestation, organisée par plusieurs lycées à Paris le 6 décembre prochain contre la politique éducative du gouvernement. En attendant, Radio France Internationale prépare un débat. Quelle est la cohérence avec le discours du président français Emmanuel Macron visant à encourager les étudiants africains à venir en France? Les étudiants étrangers composés à 45% d'Africains sont-ils toujours les bienvenus en France? Nous reprendrons ce magazine, cette émission avec plaisir. Et puis, je vous rappelle que hier, Le Monde a marqué la 30e édition de la Journée mondiale de la lutte contre le sida. Si des progrès considérables ont été faits en 30 ans, la situation n'est pas maîtrisée pour autant. Et selon l'ONU SIDA, sur près de 37 millions de personnes infectées, un quart ne le sait pas. Savoir, c'est pouvoir, connais ton statut, tel est le mot d'ordre martelé par l'ONU. L'ONU-SIDA, qui présentait il y a quelques jours son rapport annuel à Abidjan, en Côte d'Ivoire.
Hey Doudou, ça fait bientôt 6 mois maintenant, donc je pense que nous avons perdu assez de temps. Je t'aime, tu m'aimes, pour moi c'est évident, ton peu préservatif et prenons du bon temps. Cesse de me dire dès que je m'approche de toi.
N'y pense même pas.
Fais-moi confiance, abandonne-toi à moi.
N'y pense même pas, n'y pense même pas. Non. Le préservatif nous protège, toi et moi. Oh. N'y pense même pas. Comment oses-tu me demander ça? N'y pense même pas. T'as perdu la tête, t'es pas bien ou quoi? N'y pense même pas. D'abord on fait le test et après on verra. Je sais pas, j'hésite, oui, non.
Tellement belle, je ne veux que ton bonheur, je sais qu'il faut ramer pour être à ta hauteur. Entre nous deux, c'est sérieux. Tu connais ma valeur, sans préservatif, tu sentiras ma douceur. Et baisse de me dire dès que je m'approche de toi.
N'y pense même pas.
Fais-moi confiance, abandonne-toi à moi.
N'y pense même pas.
Et oui, hier, le 1er décembre, Le Monde a marqué la 30e édition de la Journée mondiale de lutte contre le sida. Si des progrès considérables ont été faits en 30 ans, la situation n'est pas maîtrisée pour autant. Savoir ses pouvoirs, connais-tu ton statut? Le Canada s'est engagé à atteindre les cibles mondiales de dépistage et de traitement du VIH d'ici 2020 et on prévoit que l'atteinte de ces cibles mettrait fin au sida comme menace à la santé publique d'ici 2030. Plusieurs centres de dépistage, je vous rappelle, sont à l'œuvre dans la grande région de Toronto. Entre autres, le centre francophone de Toronto pouvait avoir des tests de dépistage tout en gardant votre anonymat. et aussi l'action positive qui peut vous aiguiller vers d'autres services. Il y a aussi ACT de Toronto, ACT, qui offre aussi des services, des programmes d'éducation. Le point avec Dr Marie Girard, chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Saint-Antoine à Paris, au micro de RFI.
Professeur Pierre-Marie Girard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef du service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. C'était hier la journée mondiale du sida. Quel est l'enjeu aujourd'hui? C'est quoi? C'est de mieux dépister les personnes porteuses du VIH-sida?
Ah oui, on a tous les outils. On a les outils pour soigner, on a les outils pour prévenir. Et maintenant, ce qu'il faut absolument, c'est que les personnes connaissent leur séropositivité dès l'instant où il y a eu une prise de risque. Et donc, il faut absolument diagnostiquer.
C'est ça, 40% des personnes porteuses du VIH-SIDA ne le savent pas.
Même en France. Même en France. Hein, 25% en France, 40 à 50% à l'échelon planétaire ne savent pas qu'ils sont séropositifs.
Parce qu'une fois qu'on le sait, on est mis sous traitement tout de suite. Et c'est ça qui permet de ne pas propager le sida, peut le dire?
Oui, c'est absolument essentiel. On a bien compris d'abord que... c'était une manière d'avoir accès au traitement, de traiter tout de suite. C'est-à-dire qu'on faisait d'une pierre deux coups, en somme. Et que le fait d'être mis sous traitement casse complètement la contamination. Donc, si on veut contrôler l'épidémie, il faudrait, dans le meilleur des mondes, si on traite tout le monde, l'épidémie s'arrête. Et c'est l'idée, d'ailleurs, l'OMS aimerait qu'on ait un contrôle de l'épidémie en 2030. Donc, on a les outils. Il faut arriver à les mettre en place.
Et ça, même dans les pays en développement, dès qu'il y a dépistage, il y a mise sous traitement tout de suite, c'est-à-dire les médicaments sont réellement disponibles?
Ah, ben voilà, ça fait partie des goulots d'étranglement, comme on dit. Hein. C'est-à-dire que c'est ce qu'il faudrait faire. Qui est vraiment en mesure de le faire? Malheureusement, ça demeure encore minoritaire.
Donc il y a encore des difficultés d'accès au traitement?
Il y a beaucoup de difficultés encore d'accès au traitement. Il y a à la fois beaucoup de progrès. On voulait 15 millions de personnes en 2015 sous traitement, ayant débuté leur traitement.
On en est à 18 millions.
On en a 18 millions, donc l'objectif a été atteint. Attention, ça c'est 18 millions de personnes qui ont été mises sous traitement. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elles sont toujours sous traitement. Hein, ça, on a une moins bonne visibilité. Et on sait que malheureusement, il y a des arrêts de traitement. D'abord, le compte n'y est pas tout à fait. Hein, ce n'est pas 18 millions, il faut arriver à 30 millions assez rapidement, premièrement. Et deuxièmement, il faut être mis sous traitement, mais il faut être maintenu sous traitement. Et ça, c'est une grande difficulté.
Et prendre ses traitements régulièrement. Merci, professeur Pierre-Marie Girard.
Eh oui, 30e édition de la Journée mondiale de lutte contre le sida, 1er décembre, comme à chaque année. Et cette année, le thème, savoir ses pouvoirs, connais ton statut. Je vous rappelle qu'en Ontario, le nombre estimé de personnes vivant avec le VIH à sida a augmenté considérablement, passant de 15 904 en 1999 à 26 627 en 2008, ce qui représente une hausse de 67%. On explique cette augmentation par la réduction du taux de mortalité et la transmission continue du VIH au sein de la population précise ou des populations précises. En 2008, 1618 nouvelles infections ont été signalées. Il existe 5 populations à risque en Ontario, les hommes homosexuels et bisexuels, les ontariennes et ontariens d'origine africaine ou caribéenne, les consommateurs de drogues injectables, les autochtones et les femmes qui appartiennent à ces communautés ou qui s'adonnent avec elles à des activités qui présentent un risque élevé. De nombreuses raisons expliquent pourquoi l'épidémie du VIH continue de se propager, y compris les préjugés sociaux et les déterminants sociaux de la santé. On estimait en 2008 que plus de 15 000 hommes homosexuels ou bisexuels étaient porteurs du VIH en Ontario. Ce nombre constituait environ 57% de l'ensemble des personnes infectées par le VIH dans la province. On comptait 747 nouvelles infections parmi les hommes homosexuels et bisexuels qui représente 46% de la totalité des 1618 nouveaux cas d'infection. Et je vous rappelle que vous pouvez aller sur le site de CATIE Canada, C-A-T-I-E, et là vous découvrirez plusieurs documents statistiques et des données très intéressantes mais aussi alarmantes. Je vous rappelle que nous allons descendre dans quelques minutes à Paris, à New York, pour marquer ce 1er décembre, 30e édition de la journée mondiale de lutte contre le sida. Et encore une fois, je remercie tous les partenaires et les radios partenaires impliqués dans cette édition un peu spéciale d'aujourd'hui. Êtes-vous un fournisseur de services? Faites-vous partie de la communauté francophone? Connaissez-vous vos droits pour recevoir des soins de santé en français? Qu'est-ce que l'offre active en santé? Alors, Reflet Salvéo, l'organisme à but non lucratif, est là pour vous accompagner dans votre démarche pour trouver des soins et bons services en santé. Reflet Salvéo est chargé d'engager la communauté francophone dans son système de santé, mais également de conseiller les réseaux locaux d'intégration des services de santé sur leur politique de service. Connaissez-vous les slogans de Reflet Salvéo? Compétence, écoute, engagement, solidarité. Reflet Salvéo, le reflet des besoins en santé pour les francophones de la région. Que vous soyez immigrant, femme, jeune, personnes âgées ou personnes ayant un handicap, ou vivant avec le VIH, Reflet Salvéo prend en compte vos besoins dans son plan d'action. Découvrez toutes les thématiques, les projets et les offres d'emploi disponibles en ce moment chez Reflet Salvéo en visitant le site web www.refletsalvéo.ca. Faites comme Christopher, devenez membre et prenez votre santé en main. Communauté informée, communauté en santé, ça commence chez Reflet Salvéo.
CIUT 89.5 is the only community station left on the FM dial in Toronto. Thanks to our generous supporters, we continue to be the sound of your city. Don't worry if you haven't donated yet. There's still time to qualify for the round-trip ticket for two to Reykjavik, Iceland. You have until December 31st. Visit www.ciut.fm and click donate.
CIUT 89.5, Toronto.
De la République dominicaine au Canada, Richie J, que vous entendez en ce moment, un chanteur au parcours exceptionnel. La nouvelle star haïtienne de Montréal sera des nôtres vers midi aujourd'hui, à ne pas rater. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de travailler avec son équipe pour lancer son dernier single que vous entendez en ce moment, Pardonne-moi, version remix. Richie J, chanteur au parcours exceptionnel dès midi, aujourd'hui, la nouvelle star de Montréal à ne pas rater.
Parents, les professeurs et les coéquipiers, les discours fous des pionniers. Écoutez votre instinct et croyez en vos idées. Écoutez votre cœur et les visions encore inexprimées. Écoutez le présent et les échos du futur. Ne pas seulement entendre, écoutez. Parce que c'est seulement quand nous écoutons que nous pouvons comprendre, que nous pouvons trouver des solutions intelligentes, que nous pouvons progresser. C'est seulement en écoutant ce qui compte que nous pouvons créer des solutions qui comptent elles aussi. C'est de là que tout provient. Ce n'est pas seulement en nous, c'est notre nom.
Usted está escuchando
Tierra de Alianza.
Tierra de Alianza.
Tierra de Alianza.
Sur France Inter.
France Inter.
Con Alexandre Hérault.
Oui, bonjour.
Toronto, c'est les gens qui y habitent.
Pourquoi tu filmes, tu enregistres en direct maintenant?
Toronto change au fur et à mesure que la population de la ville change. Et
comme ça,
ben pourquoi pas? Son identité, c'est la culture et les désirs de devenir de chacun qui y habite.
On est live sur Twitter ou quoi?
Vous écoutez Potpourri Show sur CUT 89,5 FM, une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Potpourri Show, 30 ans déjà, toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm. ou www.popourichaud.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM.
Shakespeare. Mr. Ford, I am speaking to you directly. A message from the Francophone community of Ontario, and I want to make sure you understand I'm speaking to you in Shakespeare's language. You must know. We fought for our primary schools and high schools in Ontario, and we won! Mr. Ford, we fought for our Francophone colleges in Ontario, and we won! Mr. Ford, we are fighting for our Francophone university, and we will win!
Maintenant, donc je pense que nous avons perdu assez de temps. Je t'aime, tu m'aimes, pour moi c'est évident. Ton peu préservatif et prenons du bon temps. Cesse de me dire dès que je m'approche de toi.
N'y pense même pas.
Fais-moi confiance, abandonne-toi à moi.
N'y pense même pas, n'y pense même pas.
Savoir, c'est pouvoir. Connais-tu ton statut? En 2018, dans le monde, l'agence onusienne estime que 9,4 millions le nombre de personnes qui ne savent pas qu'elles sont infectées et ne se font donc pas soigner. Oui, et sont aussi par définition de potentiels vecteurs de transmission. Savoir son statut sérologique est le départ de tout parce que aujourd'hui, on sait que lorsqu'on est séropositif et que l'on arrive à vous mettre sous traitement tout de suite, on peut contrôler l'activité du virus dans le sang. C'est pour cette raison qu'on insiste sur le dépistage comme un droit et il faut aller vers des formes d'optimisation de ce dépistage en allant vers les communautés, en faisant en sorte que l'autotest devienne une réalité. Et puis surtout, se battre contre la stigmatisation, la discrimination. Et justement, avant de parler avec des représentants de l'ONU SIDA, je vous rappelle que dans quelques minutes, nous allons accueillir la directrice de l'association Action Traitement à Paris, qui fait un travail extraordinaire, Mélanie Jedon, qui nous attend. Et pour l'instant, je vous laisse écouter un extrait d'un entretien qu'a donné Michel Sidibé, qui est le directeur de SIDA, l'ONU SIDA, et il nous donne un peu sa vision sur l'étendue de l'épidémie et aussi tout le travail qui doit être accompli pour atteindre les cibles visées par l'ONU-SIDA. C'était à TV5.
Depuis le début des années 1980, en l'espace donc de 38 ans, à peine 40 ans, la maladie a tué au moins 35 millions de personnes. 1 800 000 nouveaux cas sont déclarés chaque année. On va quand même le rappeler avec vous, Michel Sidibé. Il n'y a pas encore de vaccin, on va l'évoquer. Comment faire aujourd'hui pour se protéger, pour ne pas être contaminé?
Moi, je crois que c'est vraiment important parce qu'on a des succès, on a les résultats. Et ces résultats, malheureusement, jouent contre nous quelque part. Oui. Et parce qu'on voit naître une nouvelle forme de conspiration. Mmh. Et je l'appelle plutôt la complaisance. Les gens ont l'impression qu'on a gagné. On n'a pas gagné contre l'épidémie. On n'a pas de vaccin, on en parlera. On n'a pas de cure. Mm. Et donc, il faut aller vers une politique de prévention agressive. Il faut faire en sorte que l'éducation globale à la sexualité devienne une réalité un peu partout. Il faut que les jeunes soient compétents, qu'ils soient capables de se protéger. Donc, on constate malheureusement que lorsqu'on augmente le nombre de personnes sous traitement, qu'on réduit la mortalité, on n'arrive pas à voir la même baisse en termes de nouvelles infections.
Parce que certains et certaines abandonnent les moyens de protection.
Les moyens de protection. Et on a aussi 40% malheureusement de ces nouvelles infections, elles se produisent aujourd'hui parmi ces populations qui sont exclues, qui sont à la marge de la société.
Quelles sont-elles ces populations?
Les gays, les personnes qui s'injectent la drogue, les migrants, les travailleuses du sexe, tous ces groupes, les prisonniers, tous ces groupes qui malheureusement se trouvent être à la marge de la société et n'ont pas nécessairement accès aux services. Et il faut qu'on transforme ça. Et la discrimination continue. Et malheureusement, cette discrimination, elle est portée par chacun d'entre nous. C'est les policiers, c'est les enseignants, c'est les docteurs. Nous avons, ce rapport le montre, une personne sur cinq vivant avec le VIH, a peur d'aller vers les services de santé en 2021. Oui.
Alors le vaccin, on en parle donc, le vaccin n'est pas encore près de voir le jour, mais tout de même, il y a de l'espérance. L'université d'Harvard notamment a annoncé récemment avoir effectué des essais cliniques plutôt positifs. Le vaccin expérimental s'est montré capable de protéger par exemple des singes et il a suscité une réaction immunitaire chez l'homme. C'est plutôt novateur. Vous êtes optimiste, vous, à ONU-SIDA?
Moi, je suis optimiste. Moi, je pense que toutes ces percées au niveau de la recherche, on doit les encourager.
Oui.
Et je pense pas qu'on aura le vaccin dans 6 mois. Peut-être dans un an, mais on l'aura, ce vaccin. Ce vaccin, il sera certainement plus efficace que le vaccin que nous avons aujourd'hui, qui est efficace à 31%.
Oui.
Mais continuons à utiliser l'arsenal des outils de prévention que nous avons pour faire en sorte que les personnes soient dépistées rapidement, faire en sorte que ces personnes dépistées positives soient sous traitement et qu'on puisse avoir une suppression de l'activité du virus dans leur sang.
Alors vous avez un projet en tout cas qui est baptisé Objectif 90-90-90, c'est quoi au juste?
C'est ce projet-là, faisons un peu partout le plaidoyer pour que 90% des personnes vivant avec le VIH qui ne connaissent pas leur statut, on puisse les dépister. Et lorsqu'on sait que ces personnes sont positives, qu'on mette 90% de ces personnes-là sous traitement, et que ces 90% qui sont sous traitement, qu'on puisse avoir au moins une activité du virus et qui soit nulle dans le sang. Donc la transmission, on risque de la briser et on risque d'aller vers un meilleur contrôle de cette épidémie. On le voit, ça, on a des pays qui l'ont déjà démontré, autant au nord qu'au sud, des pays comme le Swaziland, qui s'appelle Eswatini maintenant, ainsi que le Botswana, mais le Cambodge, un peu partout, nous avons aujourd'hui des pays qui ont déjà atteint cet objectif.
Michel Sidibé, pour terminer, de quoi avez-vous besoin, vous, à ONU-SIDA, et que faut-il aujourd'hui pour mieux lutter contre l'épidémie?
Moi, je pense qu'il faut combattre la complaisance, il faut surtout faire en sorte qu'on ait des bonnes lois et qu'il y ait des ressources financières. financière. Il ne faut pas que les États se désengagent. C'est la seule maladie où on a 57% des ressources qui proviennent des ressources domestiques. Mmh. Et je suis content que le président Macron ait décidé de porter la reconstitution du Fonds mondial en France en 2019. C'est important. S'il n'y a pas une mobilisation, s'il n'y a pas de ressources nouvelles, nous allons avoir rebond dans cette épidémie. Nous allons avoir des résistances et nous allons perdre le combat que nous avons commencé et que nous sommes en train de gagner, mais qu'on n'a pas encore gagné.
Michel Sidibé, directeur exécutif d'ONU-SIDA, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions à l'occasion donc de la sortie de ce nouveau rapport.
Savoir ses pouvoirs, connaît ton statut, bilan et perspective dans le monde avec l'ONU-SIDA et nos invités partenaires et témoins vivants avec le VIH tout au long de cette émission. Et oui, hier, le monde entier a marqué la journée mondiale de lutte contre le sida. Plusieurs événements ont eu lieu en Europe, en Afrique, aux États-Unis, mais aussi au Canada, à Montréal, à Toronto. En France, malgré les manifestations et le chaos des Gilets jaunes, certaines associations ont eu le courage d'organiser des événements. Environ 6000 personnes découvrent chaque année qu'elles sont infectées par le virus en France. Et 6 millions de tests en laboratoire ont ainsi été réalisés l'an dernier en France. Pourtant, près d'une personne sur trois a été diagnostiquée à un stade tardif de l'infection à VIH. Un dépistage qui semble rater sa cible. Action Traitement, une association en France, une association de patients ayant pour mission d'informer les personnes atteintes par le VIH sur les traitements. J'ai le plaisir d'accueillir dans un instant Madame Mélanie Jeudon, directrice de l'association Traitement, Action Traitement à Paris. Mélanie Jeudon, bonjour et bienvenue à Toronto.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Oui, alors on voit des images saisissantes ces jours-ci à Paris. J'espère que tout va bien de votre côté. Votre personnel, vous êtes en sécurité, oui, ça va?
Oui, bien sûr.
Très bien. Alors, merci beaucoup d'être là. Est-ce que vous avez marqué cette journée? Je sais que vous organisez pas mal d'activités avec vos membres dans la région parisienne. Comment se déroule justement ces, pour marquer la journée mondiale de lutte contre le sida cette année?
Alors, ben justement, pour nous, le 1er décembre, c'est souvent l'occasion d'aller vers le public, qu'on ne fréquente pas forcément, parce qu'en tant qu'association de patients, la plupart de nos actions sont directement pour les personnes qui vivent avec le VIH. Et pour le 1er décembre, on essaie d'aller au contact des personnes, alors au sein d'animations de rue, par exemple, ou bien dans les hôpitaux auprès du grand public.
Mmh. Et une association créée, je pense, en 1991, hein?
C'est ça. Action Traitement, c'est une association historique du champ de la lutte contre le VIH qui a été créée en 91 par qui était à l'origine un groupe de parole, d'autosupport entre personnes concernées et qui s'est très vite spécialisé sur la question des traitements et de la thérapeutique. Alors aujourd'hui, évidemment, la question des traitements n'est pas du tout la même qu'en 1991. Il y a beaucoup de traitements qui sont efficaces, bien tolérés, etc. Mais l'association a gardé d'origine, le fait de valoriser la parole du patient pour le patient, d'une part, et d'autre part, de s'intéresser à la question médicale et de la prise en charge.
Mmh. Voilà. J'ai lu quelque part qu'il y a au moins 160 000 personnes porteuses du virus en France et 25 000 sont ainsi séropositives sans le savoir, selon une estimation. Vous pensez qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour le dépistage?
Oui, alors les estimations sont toujours un peu compliquées parce qu'effectivement, on pense qu'il y a environ 120 000 personnes qui connaissent leur statut en France et qui vivent avec la maladie. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'épidémie cachée qui, en fait, concerne 20 à 30% des personnes qui sont contaminées. Mais comme elle est cachée, en fait, on ne sait pas exactement de combien de personnes il s'agit. C'est des estimations statistiques. Mais ce qu'on sait, c'est que, comme vous le rappeliez, c'est que le nombre de découvertes ne baisse pas en France. Je crois que c'est depuis 2011 où on a 6 000 personnes environ qui sont contaminées chaque année. On pense que ces contaminations sont largement dues à ces personnes qui ne connaissent pas leur statut et qui, du coup, de fait, ne sont pas traitées. Et comme vous le savez, quand on prend son traitement et que sa charge virale est indétectable, on ne transmet plus la maladie. Donc, on pense que ça réside dans l'épidémie cachée la raison de ce nombre de contaminations qui ne baisse pas. Donc oui, le dépistage reste un gros enjeu en France.
Et parlez-nous un petit peu de le profil de votre clientèle. Il y a aussi tout cet aspect de migrants qui arrivent en Europe. Ici, les gens sont contaminés, ont besoin des services, mais qui n'ont pas de papiers, qui ne sont pas en situation régulière en Europe ou en France. Comment se passe-t-il? Quel est votre rapport avec ce groupe de personnes?
Oui, alors du coup, effectivement, en France, si on regarde un peu les profils des personnes touchées, donc il y a une diversité de profils, mais la maladie est particulièrement discriminante, en particulier vers les hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes, et des personnes qui sont nées à l'étranger. Pour les personnes qui sont nées à l'étranger, ce qu'il faut voir, c'est que déjà, c'est une question de statut administratif. Il y a eu une enquête il y a quelques années, en 2013, de l'Agence nationale de recherche du SIDA, l'ANRS, qui s'appelle l'enquête parcours, et qui avait montré que parmi les personnes migrantes qui vivaient avec le VIH, environ la moitié d'entre elles, 49% en fait, avaient contracté le virus en France. Donc c'est pas forcément l'image qu'on a de la personne qui arrive avec la maladie, mais c'est plutôt le fait que ce soit en France dans des conditions de précarité liées notamment au fait de difficultés d'accès aux droits, qui a engendré la prise de risque et la contamination. Alors notamment pour les femmes, en fait, migrantes, c'est environ 35% des nouvelles contaminations. Et les femmes migrantes qui sont contaminées dans ces conditions-là, c'est souvent parce qu'elles sont plus fragiles vis-à-vis de violences sexuelles, qu'elles sont dans des rapports sexuels transactionnels contre nourriture, contre hébergement, etc., qui favorisent les pratiques à risque.
Il y a aussi beaucoup de stigmatisation, malheureusement, qui est un vrai fléau, je pense, pour combattre la maladie. Il y a beaucoup d'immigrants qui arrivent à Toronto, en Ontario. Des fois, vous savez, la communauté francophone, elle est très restreinte, très petite, donc tout le monde se connaît. Et les gens, souvent, préfèrent rester à la maison et ne pas aller chercher les soins ou encore aller dans des services complètement différents, dans une autre culture, une autre langue, en l'occurrence l'anglais. Ce qui est fait, c'est très difficile, surtout pour les gens qui ne savent pas parler l'anglais. Alors, ça peut causer des problèmes. Je vous invite, nous venons de recevoir un témoignage d'une certaine Gisèle, qui est quelque part en Belgique ou en Europe en tout cas, et qui nous parle de son expérience personnelle en tant qu'immigrante et comment elle a été vraiment pas très très bien comprise et perçue par l'entourage, y compris des fois le système de clinique. Alors on écoute un petit extrait et j'aimerais bien avoir votre réaction juste après.
Alors ici en Belgique, franchement, j'ai subi la discrimination aussi. Déjà, quand j'arrive à Morlanwe, quand j'arrive en Belgique, je suis au centre à Morlanwe. Alors, donc, au départ, je suis gentille avec tout le monde. Et malheureusement, il y a quelqu'un qui se permet de regrouper les gens et de leur parler de ma séropositivité. Et surtout de leur dire de m'éviter parce que je vais les infecter. Alors, ceci dit, les gens venaient dans ma chambre, puisque j'ai ramené mon album de jeunesse. Donc, quand ils regardaient mes photos, ils disaient, ici, tu étais déjà malade. Ici, c'est bien. Donc, on m'épiait en quelque sorte. Et finalement, le comportement des gens a commencé un peu à changer. Donc, les gens devenaient un peu plus réticents. Et donc, mon compagnon actuel, à l'époque, lui aussi, il était au centre, il est venu me voir, il m'a dit, mais est-ce que tu as dit aux gens que tu es infecté? J'ai dit, mais non. Parce que au Cameroun, on savait que j'étais malade. Là, je venais d'arriver, je n'avais même pas encore eu à faire un témoignage en Belgique. J'ai dit non, il dit, mais parce que on nous a réunis là tout à l'heure, on m'a demandé de t'éviter parce que tu vas nous infecter. Et on a insisté, surtout moi, comme on me voit avec toi, qu'il faudrait que je t'évite parce que tu vas m'infecter. Mais j'ai fait semblant, comme si je ne savais pas que tu étais malade. Donc, je me suis étonnée quand ils m'ont fait comprendre que tu étais malade. Je me suis étonnée. J'ai dit, ah, mais non, moi, j'ai rien dit. Il dit, c'est sûr que tu n'as rien dit. Il a dit, j'ai dit, ok. Alors moi, ça m'a fait tellement mal parce que je me suis dit, mais en Belgique, c'est un pays plein de démocratie. Comment est-ce qu'on peut se comporter comme ça en Belgique? En Afrique, je disais, oui, il manque c'est l'ignorance. Mais ici, en Belgique, mais non. Alors là, je suis allée à l'infirmière, voir les infirmières. Je leur ai dit, mais tiens, il y a quelqu'un qui essaie un peu de parler de ma séropositivité à ma place. Et là, ça ne marche pas parce qu'il importe à moi de parler de ma sérologie où je veux, comme je veux. Mais pas.
Et oui, alors c'est dur. Hein. Pourquoi j'ai passé ce témoignage avec vous ? Parce que je sais que vous êtes très proche d'une variété, diversité de clientèles qui font affaire avec vous et vous êtes sensible en voyant votre site, en voyant tous les, comment s'appelle, on appelle ça le outreach, c'est-à-dire vous envoyez des communiqués, tout ce que vous faites comme atelier à tout le monde, y compris au Canada, c'est comme ça qu'on vous a connu. Alors, je pense qu'il y a du travail à faire dans certaines associations qui embauchent les gens, il faut leur donner une formation. Et c'est pas toujours facile, hein. Si on n'a pas cette sensibilité, on peut déraper des fois et ça peut créer des problèmes comme le cas qu'on vient d'entendre, le cas de Gisèle, n'est-ce pas?
Oui, alors dans son témoignage, il y a deux choses, mais qui sont vraies en Belgique, qui sont vraies en France, et je pense dans beaucoup d'endroits dans le monde, malheureusement. Il y a la question déjà de la méconnaissance totale des modes de transmission, dans le fait que parce qu'elle est sur le positif, du coup, les gens se comportent différemment avec elle par peur d'être contaminés. Je ne sais pas du tout encore comment ça fait que ça marche, ça n'a jamais été comme ça. Et les gens ont encore du mal à intégrer ce que c'est que la contamination par le VIH. Et en plus, ils ne savent pas que maintenant, c'est tout à l'heure, action du tas, c'est que quand on est sous traitement, aujourd'hui, on ne peut plus contaminer personne. Donc, c'est la peur de la transmission n'a pas d'aide. Et après, il y a l'action de la représentation du VIH qui reste encore pour beaucoup très, très négative. Alors, selon les publics et les personnes, ça peut être la maladie des prostituées droguées, ça va être une maladie, c'est bien parce que c'est lié à la sexualité, donc c'est bien fait pour eux. Enfin, des choses qui sont très, très dures, très violentes et qui sont encore, malheureusement, qui existent, mais à travers différentes couches de la société et à des endroits parfois même très très surprenants.
Oui. Alors, je vois que le nombre de nouvelles contaminations par le VIH reste élevé en France, avec environ 6000 nouveaux cas par an. Et les jeunes sont particulièrement frappés avec 800 à 1000 nouveaux cas chez des gens de moins de 25 ans. C'est beaucoup, hein, qui utilisent souvent le préservatif pour leur premier rapport sexuel, mais pas dans les actes suivants. Et par contre, il y a une bonne nouvelle pour vous, mais moins bonne nouvelle pour nous les Canadiens. En France, les préservatifs pourront désormais être remboursés en France sur prescription médicale, une mesure rare pour lutter contre le sida et les infections sexuelles, alors que la prévention marque le pas. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de réactions positives en France lors de l'annonce de cette nouvelle par la ministre de la Santé ?
Alors, je pourrais pas vous dire s'il y a eu beaucoup de réactions positives ou pas, mais je peux vous dire ce que nous on en pense, c'est que de toute façon, effectivement, tout ce qui va dans le sens de promouvoir les moyens de prévention, on est tout à fait pour. Après, je mettrai quand même des limites à cette annonce, c'est-à-dire que effectivement, les jeunes sont en situation conservée, mais il faut pas réduire, du coup, la question des maladies sexuellement transmissibles aux jeunes, et c'est souvent le cas, par exemple, j'ai plus le chiffre exact, mais je pense que c'est plus de 15% des nouvelles contaminations, c'est des personnes qui ont plus de 50 ans. On a tendance à oublier en fait que les gens n'arrêtent pas d'avoir des relations sexuelles après 25 ans et que eux aussi doivent utiliser des moyens de prévention. Et ensuite, je voudrais parler de la prévention diversifiée parce que les préservatifs c'est bien, c'est un moyen de prévention, mais il en existe beaucoup d'autres. Alors, je vais employer les mots français, donc je ne sais pas du tout. Au Canada, je pense qu'on ne dit pas TPE, mais on dit TPE, le traitement post-exposition qu'on peut utiliser en cas de prise de risque dans les 48 heures après une prise de risque. Il existe la PrEP, le traitement qui est un traitement préventif du VIH. Il y a la réduction des risques pour les usagers de drogue. Il y a effectivement le dépistage. Même si on utilise des préservatifs, même si on a peu de risques parce qu'on n'a pas forcément eu des comportements à risque, se dépister régulièrement quand on a une vie sexuelle, c'est important. Alors pour le VIH, mais aussi pour les autres IST. Et puis, comme je vous disais, le seul moyen, finalement, pour être sûr de ne pas transmettre la maladie, c'est d'être mis sous traitement. Donc, il faut se faire dépister régulièrement. Et ça aussi, c'est un moyen de prévention.
Oui. Alors, je sais que c'est un peu compliqué pour monsieur, madame, tout le monde qui nous écoute dans la région de Toronto ou sur Internet. PrEP, c'est prophylaxie pré-exposition. Et je rappelle que tout cela est différent aujourd'hui au Canada. Il y avait pas mal de débats, mais Santé Canada a approuvé la PrEP en 2016. Et des leaders du domaine de la santé publique affirment maintenant qu'indétectable égale intransmissible. C'est une bonne nouvelle, hein, je pense. Mais les gens connaissent encore très mal la PrEP. Je pense qu'il faut continuer à en parler. Vous faites beaucoup d'ateliers de sensibilisation. Parlez-nous un petit peu justement de votre plan d'action. Comment faites-vous pour justement aller atteindre vos groupes cibles?
Alors, comment on fait pour atteindre nos consignes? On est une association qui existe depuis longtemps, donc c'est que les gens liés à nous, il y a une dynamique autour de notre association. On travaille avec beaucoup d'associations partenaires. Et comme je vous le disais, notre société, c'est quand même s'intéresse beaucoup aux questions de traitement médical, qui est quand même spécifique, ce qui fait qu'on va travailler avec des associations, par exemple, communautaires, pour lesquelles on va leur apporter justement cet aspect-là d'expertise. Ouais. Aujourd'hui, on a des programmes d'accompagnement, excusez-moi, comme une ligne d'écoute qui est accessible 2 jours par semaine. Vous trouverez le numéro sur notre site internet. On organise des rencontres ce soir. On a un programme d'éducation thérapeutique du patient également. Alors, je ne sais pas si c'est à peu près clair ce que ça peut être. Enfin, l'idée, c'est d'accompagner les personnes dans une acceptation et une prise en charge autonome de leur maladie pour qu'ils puissent véritablement être acteurs de leur santé dans la prise en charge du VIH. Et à côté de ça, on a, comme vous le disiez tout à l'heure, on a un large programme d'information dématérialisé, donc c'est à la fois en papier, mais c'est aussi en numérique.
C'est vraiment très, très, très intéressant de voir tout le travail de qualité, d'ailleurs, que vous faites, et dans un langage très accessible, ce qui est très important. Et je recommande les gens, d'ailleurs, d'aller sur votre site web, on va en parler tout au long de l'année. Et bravo pour tout le travail que vous faites. Vous avez un bon groupe de personnel. D'ailleurs, j'ai vu quelque part que vous êtes à la recherche de quelqu'un, là. Hein
on vient de trouver.
C'est ouais, dommage.
Il commence lundi, ouais.
Bravo. Combien de membres de personnel que vous avez à votre bureau?
Alors, en fait, en termes d'équipe salariée, on est peu nombreux puisqu'on est 3 salariés à temps plein, mais après, on est accompagné de bénévoles, de volontaires, de stagiaires. Enfin,
est-ce que vous êtes.
Le travail ne repose pas sur l'équipe salariée.
Oui. Est-ce que vous êtes subventionné par l'État?
Oui, tout à fait. Oui. Alors, avec du coup, toutes les difficultés qu'on peut connaître actuellement dans un contexte de restriction budgétaire, mais on a le soutien des pouvoirs publics et on en est.
Mais alors, vous saluerez bien toute l'équipe. Il y a une demoiselle là qui nous a mis en contact. Alors, vous la saluerez bien de notre part. Et je rappelle aux gens, Mélanie Jodon est directrice de l'association Action Traitement. Vous faites un travail extraordinaire et on vous remercie de la part de tous les professeurs, les auditeurs et l'équipe de la radio de l'Université de Toronto. On vous applaudit, on vous remercie infiniment d'avoir été des nôtres aujourd'hui et j'espère que ce n'est qu'une première. Merci beaucoup et on se reparle très prochainement et surtout bon courage avec tout ce qui se passe en France.
Merci, à bientôt.
Au revoir.
Ça fait bientôt 6 mois maintenant, donc je pense que nous avons perdu assez de temps. Je t'aime, tu m'aimes, pour moi c'est évident. Ton peu préservatif et prenons du bon temps. Cesse de me dire dès que je m'approche de toi.
N'y pense même pas.
Fais-moi confiance, abandonne-toi à moi.
N'y pense même pas, n'y pense même pas.
Non.
Le préservatif nous protège, toi et moi.
Oh.
N'y pense même pas. Comment oses-tu me demander ça? N'y pense même pas. T'as perdu la tête, t'es pas bien ou quoi? N'y pense même pas. D'abord on fait le test et après on verra. Je sais pas, j'hésite, oui, non.
Tellement belle, je ne veux que ton bonheur, je sais qu'il faut ramer pour être à ta hauteur. Entre nous deux, c'est sérieux. Tu connais ma valeur, sans préservatif, tu sens.
Eh oui, Sadie Brown, en Afrique, ça bouge. Elle nous dit que le sida est encore trop souvent associé à l'idée d'une sexualité débridée ou libertine, alors que la pauvreté est un important facteur de risque, selon cette auditrice qui nous écoute à Abidjan. Il y a des scénarios où une jeune fille est dans une relation avec un homme plus âgé ou juste avec une personne qui peut payer pour elle. Et il n'est pas facile de négocier du sexe protégé avec quelqu'un qui a le pouvoir dans la relation. Très fort, hein? Un programme de prévention appelé Argent et Soins a été mis en place dans plusieurs pays africains. Il s'agit de verser une somme allant de 1 à 10 dollars par mois aux adolescentes qui poursuivent leurs études. Il y a cette idée qu'en donnant de l'argent aux jeunes filles en particulier, on peut briser le cercle vicieux de la pauvreté, explique le docteur Shafik Essadji, et s'assurer qu'elles vont se soigner ou qu'elles vont adhérer plus facilement au programme de prévention. Et cela a un vrai impact, hein, pas seulement sur la prévention du VIH, mais sur tous les objectifs de développement. Voilà, ça bouge, il y a de l'innovation dans le domaine de traitement, prévention, VIH, SIDA. Dans un instant, le point de l'actualité avec Radio France Internationale, à ne pas rater, notre ami artiste, la star, nouvelle star haïtienne de Montréal, Richie J sera des nôtres, ainsi que le Théâtre français de Toronto qui nous présente Les Inspirés, l'âge de raison, et nous aurons la metteur en scène qui sera des nôtres, Madame, Monsieur, à ne pas rater dès midi après. The news de RFI. Pour nous joindre tout au long de l'émission et pour gagner vos billets pour aller au Cinéplex ou encore aller voir Les Inspirés au Théâtre français de Toronto, popourri@cut.fm. Bon brunch.
Écoutez la planète chanter.
Rappelle à ton souvenir.
Ay, maman, buena loco.
Adra ben la cosa, ding-e-dong.
Non, attends.
Ding-e-dong.
Écoutez la planète chanter.
CIUT 89.5 FM, the station that brings you the best Latin music, new and old, on Ultra Latino with DJ Chelly.
CIUT 89.5 FM, the sound of your city.
Join us for Vince Macaron's Los Variants CD release party, happening Wednesday, December 12th at the Burdock Music Hall. Featuring an incredible lineup of musicians from around the globe coming together for this exclusive performance. Tickets only $15 in advance, $20 at the door. Available online at burdockto.com. Showtime, 9 p.m. Los Variants, one night only, December 12th at the Burdock. 1184 Bloor Street West.
Brought to you in part by CIUT 89.5 FM.
CIUT 89.5 is the only community station left on the FM dial in Toronto. Thanks to our generous supporters, we continue to be the sound of your city. Don't worry if you haven't donated yet. There's still time to qualify for the round-trip ticket for two to Reykjavik, Iceland. You have until December 31st. Visit www.ciut.fm and click donate.
CIUT 89.5, Toronto.
Charlotte Lalanne.
À la une de ce journal, un air de révolution à Paris, barricades, incendies, heurts avec les forces de l'ordre. La troisième manifestation nationale des Gilets jaunes a débordé. On compte plus de 100 blessés à Paris. Un compromis pour sauver les apparences au G20, mais le contenu de la déclaration commune montre en creux les divisions profondes. Il était le 41e président des États-Unis. George Bush père est mort, un président au mandat unique qui aura marqué l'histoire américaine. Et puis, en Centrafrique, on fêtait ce samedi les 60 ans de la République. Défilé sous haute sécurité à Bangui dans un contexte sécuritaire très tendu. Reportage à suivre.
RFI, la radio mondiale.
Il y a bientôt 15 ans, RFI, une trentaine de radios d'Afrique et de l'océan Indien, décidait de se réunir afin de créer un concours permettant aux artistes du Sud de sortir de leur isolement et d'accéder à la scène internationale. Ainsi naquit le concours Découverte, qui s'est progressivement ouvert à toute l'Afrique francophone, puis anglophone et lusophone, et enfin aux Caraïbes et à l'Amérique latine. Découverte est donc bien aujourd'hui le plus grand concours musical au monde. Mais revenons à 81. Le grand gala clôturant le concours se passait à Dakar, parmi les lauréats, Nawa Doumbia, du Mali.
Remix.
Si tu veux, pardonne-moi. Si tu...
pas quand si ou ma vie ouais. Fon RM, ma pige en peine. Oh chérie, ce qu'on j'aime désolé. Oh baby, ce qu'on j'aime désolé.
Remix, nouveau single Pardonne-moi de Richie J, la nouvelle star haïtienne de Montréal, de son vrai nom Richard Verdieu. Né à Port-au-Prince en Haïti, il a grandi dans une famille où la musique était omniprésente. Sa mère, sa grand-mère et sa communauté chrétienne lui ont notamment transmis une tradition musicale bien vivante. Voilà, depuis 2002, Richie J se consacre à son art, initié dans la culture rap haïtien de son époque et de son quartier, la banlieue populaire bicentenaire. Le jeune homme a créé son premier groupe, Haunting Sion Hip Hop. Il sera des nôtres dans quelques minutes, madame, monsieur, à toute la communauté haïtienne, là, tout le monde là, diaou, bonjour, et voici dans un instant. Installez-vous. Allez, tout le monde est occupé, tout le monde est content. Bat dans les mains. Bonjour Richie. Richie J, bonjour.
Oui, bonjour.
Ça
oui,
va?
Bonjour.
Alors, il y a toute une foule là qui est ici, là, qui vous applaudit. Mais ils ne vous voient pas. Ce serait bien que vous veniez à Toronto nous rendre une petite visite bientôt.
Bah, ouais, bien oui. Eh bien, on est actuellement à Toronto. Hein.
Ouais,
mais on va revenir.
Ouais, ok. Alors, bravo pour ce nouveau single, Pardonne-moi. Parlez-nous un petit peu du travail que vous avez fait, l'historique un peu derrière ce titre.
Ah, mais c'est sûr que le travail, cette chanson, c'est une chanson que j'avais travaillée au début avec une version plus simple. Mm-hmm. Puis actuellement, on a travaillé la version Zouk Compa, qui est vraiment plus traditionnelle musique haïtienne. Par contre, c'est un très bel morceau et c'est de l'émotion. C'est des belles paroles et avec des belles mélodies. Mmh. Pour moi, c'est une très belle chanson. Donc, je trouve que c'est la tendance actuelle. On appelle ça du compas gouillade. Donc, c'est pour ça qu'on a travaillé ce morceau et je pense que vraiment la chanson commence à faire son chemin.
Oui. Alors, vous chantez en créole, vous chantez en français aussi?
Oui, en anglais et aussi espagnol.
Ah, parfait. D'ailleurs, ce qui m'intrigue un peu, c'est que vous avez vécu dans la République dominicaine hein, pendant quelques temps.
Oui, j'ai vécu 6-7 ans.
Oui, et parlez-nous un petit peu de ce voyage entre Haïti et la République dominicaine. Est-ce qu'il y avait une raison précise?
Ah ben, c'est sûr qu'en 2004, lorsque j'ai quitté Haïti, c'était de la crise politique en Haïti, c'était un peu dangereux pour les jeunes. Donc, ma mère vivait déjà en République dominicaine depuis 1999. Donc, nous, on est allés habiter là-bas. Moi et mon grand frère, on est allés déménager. On était déménagés pour aller vivre en République dominicaine avec ma mère. Mmh. Donc, finalement, ça a bien été. C'est quand je suis arrivé aussi. Ça m'a permis aussi de prendre un cours de musique. Et après, jouer la guitare et de mettre plus au fond de la musique, quoi.
Pourquoi je vous pose cette question? Parce qu'il y a beaucoup d'immigrants, beaucoup d'exilés, beaucoup de gens qui se déracinent, pas pour des raisons de plaisir, mais pour des raisons économiques et politiques, socio-économiques. Et souvent, ils tombent dans la drogue, ils font des mauvais coups. Et je voulais vous utilisez un peu comme un modèle pour les jeunes qui nous écoutent en ce moment, pour montrer que malgré les difficultés, je trouve que dans la communauté haïtienne, il y a des gens qui ont cette flamme en eux. Quand je vais dans d'autres îles des Caraïbes, entre autres Saint-Martin, où je fais la navette régulièrement, il y a beaucoup d'Haïtiens qui ont décidé de s'exiler pour aller gagner leur vie, gagner leur pain. Et ça doit être terrible de se déraciner de son pays d'origine, n'est-ce pas?
Mais non, c'est parce que au final, l'essentiel, parce que en fait, ça montre que nous, les humains, on peut vivre partout, n'importe où. Et aussi, l'essentiel, c'est d'avoir la tête sur les épaules et avancer positivement. Et en ce que vous faites, vous croyez là-dedans. Et pour moi, je peux vous dire, vous pouvez aller super loin en ce que vous voulez faire dans votre vie.
Bien. D'ailleurs, c'est vraiment extraordinaire. Votre premier album, le titre, c'était « I was born to win ».
Oui, exactement, oui.
Ça veut tout dire, hein?
Ben non, c'est ça. Ça veut tout dire parce que « I was born to win ».
Oui. Et d'ailleurs, vous avez un univers assez particulier en tant que chanteur haïtien, je dirais même unique. Vous êtes inspiré des rythmes des Caraïbes, afrobeat, zouk, compas, dancehall, hip-hop, R&B. Ça en fait beaucoup, hein?
Exactement. Mais c'est sûr que j'ai commencé avec le rap, avec le hip-hop. Puis après aussi, j'ai su que je pouvais chanter. Donc, c'est là que je me mets à chanter parce que je chantais aussi à l'église quand j'étais jeune.
Oui.
Et donc, puis tout à coup, j'essaie de chanter. Puis le rythme zouk, compas, ça reste toujours le rythme haïtien. Mais moi, j'ai toujours un amour pour le rythme caribéen, qui est le dancehall, qui est l'afrobeat aussi, le rythme africain, que j'ai toujours aimé. Donc, pour moi, c'est sûr qu'aujourd'hui, je peux les utiliser. Et selon les commentaires que j'ai reçus, on me dit que je les fais vraiment bien. Donc.
Oui. Richie J, mesdames, messieurs, un chanteur au parcours exceptionnel qui nous présente aujourd'hui en exclusivité à CUTFM, pardonne-moi, en version remix. J'aimerais qu'on parle un peu de ce style rap créole. En 2013, vous avez réalisé un mixtape qui a connu une très grande popularité sur le site Kissa Hip-Hop.
Oui.
Parlez-nous un petit peu. Oui, parlez-nous un petit peu de ce succès.
Et je dois dire que le rap créole, moi, je commençais le rap créole, c'est bien sûr en 2002, 2003, 2004. C'est le moment où je me mets dans le rap créole. Après, j'ai quitté Haïti. J'étais allé migrer en République dominicaine. Quand je suis arrivé en République dominicaine, le rap créole ne marchait pas vraiment. Donc, c'est là où je commence à chanter. J'ai travaillé aussi un projet, un album avec mon petit frère, et Jameson. Donc, on faisait un groupe qui s'appelait 2BJ. Donc, c'est là où je commence à chanter et tout. Et puis, pour revenir au rap, c'est quand je suis arrivé au Canada, c'est là où je me remets dans le rap, parce que ça a toujours été le style que j'aime faire. Et en arrivant ici, je me relançais dans le rap. Ouais, ça a fait un succès sur le Kissa Hip-Hop qui a été vraiment une plateforme pour le rap créole haïtien. Kissa Hip-Hop, ça veut dire c'est quoi le hip-hop? Non. Alors, ce site-là n'existe plus. Donc, il veut dire le rap créole actuellement est en baisse. Donc, moi, ça m'a permis d'ouvrir l'horizon à autre chose. Donc, je me lance dans le jeu de combat et tout.
Est-ce que vous êtes allé donner un concert en Haïti?
J'y étais au mois de mai. Au mois de mai, j'y étais. C'était plus pour une tournée médiatique. Mais j'ai joué deux shows en République dominicaine. Mais c'est sûr que je vais retourner en Haïti pour aller faire un show.
Quelle est la réaction des médias à Montréal sur votre chanson? D'ailleurs, on me dit qu'il y a encore beaucoup d'obstacles pour les artistes de couleur, d'haïtiens, on les appelle des communautés culturelles. J'aime pas beaucoup cette expression, mais il y a un rapport qui est sorti là par un grand Manitou dans le monde des arts avec des recommandations. On verra bien où tout ça va nous mener. Mais il y a encore beaucoup d'hésitations et de défis, je pense, pour les artistes d'origine haïtienne comme vous. Parlez-nous un petit peu de la réaction des médias et aussi du public québécois en général face à vos œuvres.
Mais pour l'instant, je peux dire que dans la communauté haïtienne, bien sûr, c'est bien vu qu'on a vraiment des bons supports avec les médias locaux, on peut dire. les médias haïtiens, les médias antillais, les médias africains. Ça va super bien, ils sont très ouverts envers nous. Et par contre, les médias québécois, on n'en a pas vraiment beaucoup qui sont ouverts envers nous parce que vraiment, on nous place dans la catégorie de la musique du monde. Donc, il n'y a pas vraiment un style qui joue beaucoup à la radio. Mm-hmm. Je veux dire, ça joue vraiment une ou deux radios. Ça joue pas vraiment partout. Et tu nous classes dans les offices alternatives et tout. Mais sauf que n'empêche pas, on fait ce qu'on a à faire. Et n'empêche pas que j'ai trouvé des contrats comme à Gaspésie, et Rimouski, Chicoutimi. Je voyage pareil parce que la musique se propage, même si ça joue pas dans la radio. N'empêche pas, aujourd'hui, on a l'Internet qui permet vraiment de faire avancer les chansons eux-mêmes.
Oui. Alors, on vous remercie infiniment d'être des nôtres. On vous souhaite beaucoup de succès. On est là, on va vous appuyer, on va vous soutenir. Vous avez qu'à frapper à la porte, la porte s'ouvrira. On remercie beaucoup Elisabeth Drapeau, votre représentante artistique, qui fait un travail extraordinaire pour promouvoir votre musique, vos œuvres. Vous êtes jeune, vous êtes beau. Je pense que vous avez de l'avenir, peut-être un jour au cinéma ou au théâtre.
Ben oui, ben, je peux dire... aujourd'hui, je peux dire, hier, j'ai eu un trophée au Kilimanjaro Music Award comme meilleur artiste pour meilleure voix masculine. J'ai eu un trophée, donc c'est vraiment quelque chose d'accompli pour nous. Parce que quand même, quand vous avez reçu une lettre que vous dites que vous êtes invité au gala, au gala Music Award Kilimanjaro Music Award, c'est que quelque chose vraiment on n'attendait pas. Et tout à coup, on a gagné... dans meilleure voix masculine, donc pour nous, c'est quelque chose de gros, quoi.
Ah ben, on vous applaudit, on vous remercie beaucoup d'être là. J'espère que vous serez des nôtres tout au long de l'année. Vous avez qu'à nous téléphoner, nous tenir au courant de vos prochains événements. Et remercie beaucoup Elisabeth Drapeau. Il y a beaucoup de gens de votre communauté qui sont à l'écoute. On reçoit beaucoup de tweets ces jours-ci, en ce moment même. Et donc, tout le monde vous appuie, vous encourage. Richie J, artiste haïtien, la nouvelle star haïtienne de Montréal, en direct avec nous de Montréal. Et cette fois-ci, on va vous laisser avec une version compas, un peu compas, de Pardonne-moi, version remix de Pardonne-moi qu'on a retracé, qu'on a retrouvé. Et toute l'équipe, Richie, vous applaudissent. Voilà. Bravo. Et continuez votre beau travail. On se reparle très prochainement. Au revoir.
Merci. Bonne journée.
Si je te demande comment tu vas, si tu savais comme je te désire, comme j'aimerais entendre ta voix. J'ai demandé qu'on m'aide à t'écrire, car je n'ai plus que des souvenirs. J'ai passé de beaux poèmes pour te dire combien je t'aime. Oh, 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 tu sais combien je t'aime.
Je vous rappelle que vous écoutez Pourri Show. Nous avons toujours des paires de billets grâce au Cinéplex Cinéma et la Comédie Française qui vous offre plusieurs billets d'ici jusqu'au 31 décembre. Hein. Donc faites vite. Et encore le Théâtre Français de Toronto si vous souhaitez aller voir Les Inspirés ce mercredi 5 décembre à 20h. Donc, nous allons recevoir dans quelques minutes la metteur en scène qui sera des nôtres en direct. Je vous rappelle encore une fois ce beau poème, poème rapaillé, dire la lumière de notre colère. Mobilisation de la parole poétique franco-ontarienne face à l'attaque du gouvernement Ford contre les collectivités francophones. Parmi les poètes qui ont écrit ce beau poème, François Barry Pelletier, Angèle Basselet, Jean Boisjoli, Eddy Bouraoui, André Charlebois, Éric Charlebois, Tina Charlebois, Nicole V. Champeau, André Christenen, Margaret Michel Cook, Daniel Groslot-Landry, André Lasselle, Gilles Lacombe, Sonia Lamontagne, Gilles Latour, Pierre-Raphaël Pelletier, Paul Savoie, Michel Atterien, Gaston Tremblay, Lélia Young, c'était écrit le 27 novembre. Très très beau poème. Vous pouvez aller sur notre site d'ici ce soir. Vous pourrez télécharger le poème et aussi réécouter l'émission si cela vous intéresse. Et je vous rappelle à ne pas rater vers 12h30. Nous allons recevoir un auteur qui sort un peu de l'ordinaire. C'est grâce aux éditions Prise de Parole qui est en plein lancement de la nouvelle saison. Et Les Dubreuil et le Bois, une histoire de Dubreuilville, de Serge Dupuis et Sophie Blé. Et Serge Dupuis sera des nôtres. Monsieur très intéressant, il est spécialiste de l'histoire sociale, politique et intellectuelle des minorités francophones en Amérique du Nord. Et bien sûr, comment ne pas parler ce qui se passe en ce moment en Ontario. Popourri Show, popourri@cut.fm pour gagner vos billets de spectacle. Dans un instant, les inspirer. Et oui, ça bouge côté théâtre, la production Les Inspirés du Théâtre français de Toronto qui a été récompensée, je vous rappelle, du prix Nora Mavor Moore pour la saison 2017-2018 en tant que meilleure mise en scène dans la catégorie jeune public revient avec Les Inspirés, l'âge à deux raisons, une paire de billets réservée à vous, madame, monsieur, chers auditeurs. Et j'ai le plaisir d'accueillir Shanda Gibson qui est la metteur en scène, elle est comédienne et aussi artiste. Bonjour Shanda Gibson et merci d'être des nôtres ce matin.
Bonjour Eric, merci beaucoup de m'avoir.
Oui, alors vous avez commencé la saison, vous avez reçu des bonnes réactions. Ça c'est une pièce, je dois dire, qui sort un peu de l'ordinaire. C'est vraiment, les gens quand on dit les inspirer, on voit les jeunes. C'est pas seulement réservé aux jeunes, c'est réservé aussi au public adulte, n'est-ce pas?
Oui, tout à fait. Un jeune public, un public adulte de tous les âges, je pense sincèrement que ça plaît à tout le monde, les amateurs de théâtre et les amateurs d'écriture et de nouvelles pièces aussi.
Alors, l'âge où l'on apprend à déchiffrer ses émotions, c'est l'âge de la raison, l'âge où on se pose beaucoup de questions aussi, l'âge où l'on commence à comprendre le pourquoi des choses. Et souvent, ce n'est pas toujours facile, n'est-ce pas?
Exactement. Cet âge de raison nous a poussé vraiment à se poser beaucoup de questions, mais en gros, cette thématique générale-là m'a inspiré à pousser la question sur la conscientisation humaine, la conscientisation du spectateur et des comédiens aussi, et cette transformation-là que le théâtre nous permet d'avoir. Donc, ça a bien nourri le projet.
Et il y a une thématique à chaque fois, et cette fois-ci à l'occasion de cette septième édition du concours d'écriture Les Inspirés, cinq jeunes auteurs d'ici, de l'Ontario, prennent la parole pour nous interpeller. Et est-ce que c'est difficile pour vous en tant que metteur en scène de trouver ces perles rares dans la communauté de la jeunesse franco-ontarienne?
En fait, je vais vous dire, pour moi, c'est la troisième année dont je signe la mise en scène des Inspirés et ma dernière. Je lègue le flambeau. Donc, quand j'ai monté le 5 sur 5, la cinquième édition, c'était ma première mise en scène. Et pour moi, j'avais un peu la trouille parce que je me suis dit, mon Dieu, comment est-ce que je vais faire pour choisir les textes, pour trouver ces perles rares-là, comme vous dites. Et finalement, j'avais vraiment la panoplie de choix et ça a été difficile parce que j'avais trop de choix, tu sais. Et là, je me suis dit, ces jeunes-là, mais qu'ils sont bons à véhiculer leurs idées, à inventer des personnages. Et avec le travail qu'ils font avec les coachs d'écriture, qui les aident à pousser leurs idées et tout ça, vraiment, ça a été un beau travail créatif, mais quel bonheur pour moi que de découvrir tous ces textes-là. Et instinctivement, chaque année, ce que j'ai fait pour choisir les cinq textes finaux, c'était vraiment de travailler avec les auteurs et les coachs d'écriture pour savoir quel conte qui a plu au public, quel conte nous interpelle. Mais en même temps, c'est faut choisir avec son cœur. Donc, pour moi, ça a été des coups de cœur à chaque année. Je me suis dit, si j'ai un coup de cœur pour un texte, c'est déjà bon signe parce qu'on a des affinités avec ce texte-là, les personnages que les jeunes auteurs ont écrits et j'y vais avec mon cœur.
Mais et il y a aussi cet apport, l'aide plutôt d'auteurs professionnels qui accompagnent ces jeunes, n'est-ce pas?
Oui, tout à fait. Ils ont une fois qu'on a nos fins de semaine d'écriture et une fois qu'on choisit les cinq finalistes, ils ont la chance de travailler avec des jeunes auteurs franco-canadiens, franco-ontariens, qui sont déjà établis depuis un certain temps. Donc, ils ont toute leur façon propre à eux de travailler avec les jeunes auteurs. Et puis, en tout, je dirais qu'ils ont environ 20 à 30 heures de coaching professionnel. Donc, c'est génial pour ces jeunes-là de voir le point A de leur écriture et ensuite la matérialisation, du produit final sur scène. Donc, ils voient vraiment une transformation dans leur écriture et souvent on a des super beaux commentaires de leur part par rapport au temps qu'ils passent avec leur coach et ce qu'ils apprennent de ces personnes-là. Oui.
Je rappelle, madame, monsieur, cette année, le Théâtre français vous propose des inspirés qui atteignent l'âge de la raison du 30 novembre au 5 décembre, présenté par le Théâtre français de Toronto. Une paire de billets vous attendent pour la pièce, la représentation de mercredi prochain. Et j'aimerais aussi qu'on parle un petit peu de cette mise en scène. D'ailleurs, c'est dans un concours coordonné avec Pierre Simpson. Parlez-nous un petit peu des acteurs, des comédiens, comédiennes qui jouent dans cette pièce.
Oh mon Dieu, mes comédiens, oui. J'ai une super équipe, Sheila, Bianca, Ziad, Eud et Nick, qui sont des comédiens qui habitent Toronto, certains originaires de Québec, d'Ottawa, de Toronto et de l'Est de l'Ontario, mais qu'ils habitent, ils habitent tous la ville de Toronto. Et puis, deux comédiens qui sortent de l'école, sont tout frais des écoles. C'est leur premier contrat. Et puis, d'autres qui sont un peu plus chevronnés dans le métier. Une jeune équipe dynamique, sympathique, hyper talentueuse, qui est vraiment là, ils vont chercher le public. C'est une belle soirée. On a aussi des instruments live sur scène, joués par les interprètes. Donc, il y a un peu de musique, évidemment, du théâtre et des personnages très attachants. Ils ont tous la chance d'être le narrateur pour un conte dont ils sont le personnage principal. Et ensuite, ils jouent aussi de multiples personnages dans les autres contes. Donc, on voit nos comédiens se transformer d'un conte à l'autre. Puis c'est vraiment, ils sont tous des caméléons. J'adore cette équipe avec qui j'ai travaillé.
D'ailleurs, il y a une que j'aime bien, là, c'est Léa, qui a un méga crush sur la fille la plus hot de l'école.
Oui.
À peine a-t-elle pris son courage à deux mains pour aller lui parler qu'un petit incident vient contrarier ses plans, on ne dira pas tout. Et il y a aussi Mariam Guira, capitaine charismatique de l'équipe de basketball. Matteo a tout pour plaire. Il y a Olivia Cyr.
Oui, qui a écrit sur un jeune sauveteur, Éloi, qui est à sa première journée de travail quand il y a des incidents qui arrivent et il doit prendre son courage à deux mains. Il y a aussi une fable écrite par Abigail Morin qui parle sur l'éléphant, l'honorable Monsieur Trompe.
Oui, Trompe, et non Trump, il faut bien le dire.
Oui, c'est ça.
Arrogant,
Trompe,
malhonnête.
L'éléphant, Monsieur Trump.
Et qui souhaite établir sa domination dans la jungle de la Maison-Blanche.
Tout à fait.
Ça, c'est moi qui l'ajoute là. Alors, ces citoyens parviendront-ils à déjouer ces plans? Le plan de Monsieur Trump, l'éléphant arrogant, malhonnête. À la manière de George Orwell, Abigail Morin propose une fable pour dépeindre l'absurdité de la politique actuelle avec une ironie mordante à voir absolument, madame, monsieur. Alors, c'est dommage, hein, vous partez, vous avez d'autres rêves, d'autres horizons, d'autres projets?
Oui, en fait, je tombe présentement sur une série qui s'appelle Médiéval, qu'on peut voir sur Radio-Canada. Et puis, on commence à tourner, je pense, déjà notre quatrième saison cet hiver. Donc, j'ai un grand plaisir de jouer, d'incarner le rôle de Dame Viviane. Et puis, je vais aussi travailler chez TFO avec Univers pour produire leur prochain spectacle de théâtre. Donc, j'ai une belle année à venir. Et puis, je suis vraiment choyée aussi de léguer le flambeau des inspirés à la prochaine metteur en scène, Christelle Descaries, qui va prendre le projet l'année prochaine. Donc, je suis hyper emballée que c'est elle qui va prendre l'aventure avec Pierre Simpson. Et puis, je vais suivre le projet de très près, de très près.
Oui. C'est votre bébé, quand même.
Oui, c'est ça.
Un beau bébé qui grandit.
Un bébé qui grandit, qui se transforme.
L'âge de la raison.
J'ai le cœur gros de laisser aller, mais en même temps, c'est bon de s'en aller.
Shonda Simpson, metteur en scène, comédienne et artiste, allez voir, allez inspirer. L'âge a deux raisons, une paire de billets vous attend, madame, monsieur. Allez sur le site, d'ailleurs, du Théâtre français de Toronto, théâtrefrançais.com. Et vous avez encore quelques jours pour y aller. Et il y a aussi des forfaits. Allez sur le site, vous allez avoir tous les renseignements. Au nom de toute l'équipe, Shonda, je vous souhaite bonne chance. Merci pour tout ce que vous faites pour la culture, l'évolution. La jeunesse, la francophonie, et au nom de toute l'équipe, je vous applaudis, on vous applaudit, voilà, et on vous dit mot de Cambronne, bonne chance et à très bientôt, et bien le bonjour à toute l'équipe du Théâtre français de Toronto, on ira vous voir.
Merci Eric, merci, bonne journée.
CIUT 89.5 Toronto.
Ok, Yeah. Moi je suis qui? Ouais. Yeah. Moi je suis quoi?
C'est le tourbillon des super filles du roi qui ont unifié le français. Ici au Canada, je fais l'interprète comme Mathieu Dacosta. De Niagara à Matawa à Wawa.
Je saute sur le métro, je rêve tout haut. Bien comme une tour bien enracinée. Je prends le train, go, je chante tout haut. Je parle en français, chez nous en Ontario.
Et dans ma culture franco-ontarienne, et fort comme une scène, c'est flashy, pure la nuit. C'est coloré ensemble, continuons le party.
Encore, c'est ça.
Et dans ma culture franco-ontarienne, et fort comme une scène, c'est flashy, pure la nuit. C'est coloré ensemble, continuons le party.
Ouais, tout le monde est coloré. Plus fort, yeah. Coloré pour toujours.
Une brise se lève, sa plus longue rue du monde. Yeah. À mes oreilles, mes dialectes abondent. Des premières nations aux derniers arrivés. Je vis dans un monde plein de sonorités.
Comme Jean Mahop, c'est un ou FL. Ma langue, c'est le point de cette tour des Babel. Partout en Ontario, au pays d'en haut. Autour du monde, je monte toujours plus haut, yeah.
Vous écoutez Potpourri Show sur CUT 89,5 FM, une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Potpourri Show, 30 ans déjà, toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm ou www.popourichaud.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM.
Et nous allons nous battre pour notre université francophone et nous allons gagner! Le message
message est tellement important, je vous demande de me laisser m'adresser directement à M. Ford dans la langue de Shakespeare. Mr. Ford, I am speaking to you directly. A message from the Francophone community of Ontario, and I want to make sure you understand I'm speaking to you in Shakespeare's language. You must know, we fought for our primary schools and high schools in Ontario, and we won! Mr. Ford, we fought for our Francophone colleges in Ontario, and we won! Mr. Ford, we are fighting for our Francophone University, and we will win!
Monsieur, voilà un petit jeune ici qui a fait un montage avec la chanson Notre Place. Merci encore à tous ceux et celles qui ont réagi à nos dernières émissions. Beaucoup de réactions. Je vous rappelle, la semaine prochaine, le 9 décembre, nous aurons le plaisir d'accueillir, qui ne connaît pas notre ami, grand ami, écrivain en résidence à l'Université York, auteur, critique littéraire, analyste sur la francophonie et membre de l'Ordre du Canada, notre ami, professeur Élie Bouraoui, sera des nôtres la semaine prochaine, le 9 décembre, pour nous présenter sa dernière poésie, recueil de poésie, Passerelle, à ne pas rater, dimanche prochain. Dans un instant, nous allons passer à un autre auteur francophone, originaire de Sudbury, en Ontario, pour ceux qui nous écoutent à l'étranger. Il nous attend. Je vous rappelle qu'il a grandi dans un milieu francophone, minoritaire. Il a une passion pour l'histoire. D'ailleurs, dès son plus jeune âge, hein, il est auteur de plusieurs œuvres, spécialiste de l'histoire sociale, politique et intellectuelle des minorités francophones en Amérique du Nord, ainsi qu'à leur rapport historique au Québec. Les Dubreuil et le Bois, une histoire de Dubreuilville, une histoire écrite par Serge Dupuis-Sophie Blais. Comment expliquer la résilience et la capacité d'innovation de la famille Dubreuil de Sault-Sainte-Marie à la frontière américaine? Dans un instant, Serge Dupuis. Et nous remercions bien sûr la maison d'édition Prise de Parole. Ce partenariat vous aide, madame, monsieur, à voyager dans l'univers de nos auteurs en Amérique du Nord. Oui. On va commencer quand même par l'Ontario, l'Acadie, et bientôt on va voyager dans d'autres, sous d'autres cieux. Est-ce qu'il est là, Serge Dupuis? Beaucoup de gens vous attendent. Bien le bonjour. Merci d'être des nôtres ce matin.
Ah, ben ça me fait plaisir d'être là. Merci de l'invitation.
Oui, vous n'êtes pas trop fatigué là? Vos jambes sont encore solides après les manifestations oui. d'hier, oui?
Oui, ben en fait, je suis à Québec, puis je m'en vais à une manifestation cet après-midi, justement, en soutien au franco-ontarien.
Ah bien, ça se poursuit, hein. Alors, merci beaucoup d'être là. Alors, parlez-nous un petit peu, justement, de cet amour et cette relation que vous avez avec l'histoire. D'ailleurs, tout ça a commencé dès votre plus jeune âge, avant qu'on parle de votre œuvre. Je suis très curieux, les auditeurs sont très curieux, vous êtes encore très jeune, photogénique. Et donc, qu'est-ce qui vous a inspiré dans le nord de l'Ontario à l'histoire?
Bien, je pense que l'intérêt s'est développé par des visites au musée, un intérêt pour la généalogie, en fait, en développant des arbres généalogiques. J'ai commencé à m'intéresser au parcours de ces individus-là, qui avaient des dates de naissance et puis des parcours migratoires intéressants. Je n'étais pas sûr de faire des études d'histoire à l'université, mais j'ai rencontré Guy Gaudreau et Gaétan Gervais, deux historiens département d'histoire de l'Université Laurentienne au début de mon baccalauréat. Et puis, je dirais que cette passion-là s'est un peu révélée. Et j'aime dire aux gens que j'ai oublié d'arrêter de faire des études. Donc, ça m'a mené au bac, la maîtrise, le doctorat et le post-doctorat. Et aujourd'hui, je travaille comme historien consultant qui fait des commandes. Et puis, ce premier ouvrage-là, est le résultat d'une telle commande de la famille Dubreuil qui cherchait à faire écrire l'histoire particulière de leur famille, de leur aventure dans la forêt boréale et puis de ce village privé que l'ancêtre de Patrice Dubreuil a fondé au tournant des années 1950.
Mmh. Alors, parlez-nous un petit peu en filigrane, c'est l'histoire du développement du nord de l'Ontario, hein?
Oui, mais je dirais que ils sont arrivés sur le tard. Donc, les Dubreuil arrivent dans le nord d'Ontario en 1948. C'est une région qu'on a commencé à coloniser à la fin du 19e. Donc, ils n'étaient pas nécessairement les premiers, Sudbury, les autoroutes, pas les autoroutes, mais les routes et les chemins de fer existaient déjà. Mais ils sont des pionniers dans la mesure où ils ont atteint des régions qui n'avaient pas été colonisées encore, donc la vallée de Rivière-Mississauguie, puis finalement la région de Magpie et de Dubreuilville au nord de Wawa. Yes. C'est cette région-là finalement avait été explorée, puis il y avait des autochtones Cree et Anishinaabe qui vivaient dans la région, mais finalement l'exploitation forestière dans ce coin-là, c'était une forêt qui avait été peu ou pas touchée.
Alors, il faut dire qu'ils étaient à Taschereau, en Abitibi, à la recherche de territoires de coups. Moi, j'arrive jamais à comprendre, parce que je connais un peu le grand nord de l'Ontario, pour y avoir travaillé, entre autres à Kenora, Dryden, North Bay, Sudbury, Hearst, Thunder Bay. Ce sont des grands territoires, comme diraient les Français, des territoires très vastes, n'est-ce pas? Mais pourquoi, cher ami Serge, vous allez comprendre pourquoi les gens se déracinent de leur terroir pour aller à l'aventure et ne sachant pas l'avenir? Parce que il faut bien se rendre compte qu'ils étaient quatre frères, hein, quatre frères Dubreuil.
Oui, c'est ça.
Et pourquoi ont-ils décidé d'aller à Sault-Sainte-Marie?
Bien, c'était la précarité, d'abord et avant tout. Monsieur Dubreuil, l'histoire commence en fait plutôt dans les cantons de l'Est, au moment de la Première Guerre mondiale, et le Canada se prépare à imposer la conscription. Et puis, le patriarche Joseph Dubreuil, justement, est encore en âge d'être conscrit. Donc, il quitte pour aller pratiquer un métier essentiel.
Ah.
Dans le bois, on n'est pas trop sûr, mais le départ se passe au cours de l'année 1918 avec la famille vers une région qui est en développement, la Abitibi, à ce moment-là, et il ouvre un atelier pour faire de la transformation et faire toutes sortes de choses avec le bois, et il enseigne ce métier-là à ses enfants, mais qui ont de la difficulté en étant des travailleurs autonomes, ne œuvrant pas pour une grande compagnie forestière, ont du mal à décrocher ils ont du mal à décrocher une concession forestière en Abitibi, le gouvernement du Québec. La concurrence est trop vive, et puis le père décède dans la cinquantaine, ils ont besoin de s'occuper de leur mère, donc ils fondent la compagnie Dubreuil et Frères en 45, et puis c'est en 1948 finalement qu'ils acceptent d'arriver en Ontario pour faire un travail que personne ne voulait faire. Les grandes forestières n'étaient pas intéressées à récupérer du bois calciné d'un feu de forêt qui était passé dans la vallée de la rivière Mississippi. Et donc, on est allé chercher des jobbers canadiens-français pour accomplir la tâche. Et il y a plusieurs compagnies forestières familiales qui ont été démarrées dans ces années-là, 48 à 51. Des jobbers qui ont réussi à former des entreprises viables grâce à ce contrat de récupération-là.
Alors, ils étaient aussi plus connus sous le nom de Dubreuil Brothers, considérés par des contemporains comme une entreprise exemplaire à l'époque.
Oui, donc Dubreuil et Frères, au moment où ils ont décidé de s'établir en Ontario, oui. Aux alentours de 1953, ils sont devenus Dubreuil Brothers et ont cherché à innover, en partie parce que c'était des gens curieux et débrouillards, mais aussi par nécessité, parce que en étant des petits entrepreneurs, on n'avait pas accès nécessairement aux meilleures concessions forestières. Il fallait être efficace dans la récolte si on voulait en faire de l'argent. Plusieurs terres auxquelles ils ont eu accès avaient déjà été récoltées par l'Abitibi Pulp and Paper dans les années 1920. Et dans le nord d'Ontario, eh bien, ça peut prendre jusqu'à 80 ans pour régénérer la forêt. Et donc, on devait se rabattre sur des essences secondaires. Donc, il n'y avait rien d'évident dans ce travail-là. Puis, finalement, ces gens-là étaient des patenteux qui réussissaient à développer des machines en fonction des besoins qui se manifestaient sur le terrain. Et ça a grandi au point où, en 1961, on a pu fonder un village privé, auquel on a donné le nom du Dubreuilville.
C'était un village presque privilégié, quasiment mythique hein, à l'époque.
Oui. Ben, en fait, c'était la croissance a été très forte dans les années 60 et 70. On avait peut-être imaginé une colonie de 100, 200 personnes.
Ah, oui.
Et finalement, il a fini par en avoir 1100. La compagnie gérait tout. Là, gérait le magasin général, était propriétaire des maisons, du système de chauffage, de déneigement. Finalement, c'est Dubreuil Brothers qui encadrait la vie sociale et économique de la région. On avait même une barrière sur la route pour contrôler pour surveiller les entrées au village, parce que tout le monde qui était là avait soit travaillé pour Dubreuil Brothers ou était une épouse ou un enfant d'un employé de Dubreuil Brothers.
Et à l'époque, comment est-ce que ces gens étaient perçus? Parce que j'ai l'impression qu'en famille comme ça, ils parlaient toujours le français. Ils avaient des traditions très ancrées dans le coin. Est-ce qu'ils étaient bien perçus par que ce soit les autochtones, les anglophones à l'époque?
Ça c'est une question à laquelle c'est peut-être un peu difficile à répondre. Vous répondrez peut-être au départ que c'est une communauté de migrants. Donc, les colons travaillent surtout dans l'industrie forestière au Québec, et c'est ce courant migratoire-là de l'Abitibi, puis un peu du bas du fleuve, qui continue d'être alimenté jusqu'aux années 1980, au point où, en fait, la majorité des gens du Dubreuilville, même dans les années 1990 et début 2000, la majorité est encore francophone et unilingue, parce que c'est un village, si vous imaginez, à une trentaine de kilomètres de la route 17, c'est un cul-de-sac, là. Il n'y a pas d'autres villages après.
D'ailleurs, ça me fait penser, en vous écoutant parler, ça me fait penser dans les années 90, toute cette polémique à l'hôtel de la municipalité, je pense, hein, de Sault-Sainte-Marie, sur la francophonie, les services en français, vous vous souvenez?
Oui, ben, en fait, c'est dans le même district, plus au sud, Sault-Sainte-Marie, mais finalement, on était dans un district d'Algoma où les francophones ne sont pas nombreux, mais où Dubreuilville, la population est homogène.
Voilà.
Donc, on se retrouve avec une population dans le village suivant qui est très anglophone, souvent bilingue. Donc, on a souvent du mal à échanger, à communiquer entre personnes, ce qui n'est pas nécessairement la situation la plus idéale pour entretenir des relations avec d'autres. Donc, je dirais que les rapports, à la fois avec les communautés anglophones et autochtones environnantes sont assez limitées.
Oui. Alors, c'est un livre qui est appuyé sur une recherche exhaustive, des entrevues réalisées avec nombre d'acteurs, anciens travailleurs, des résidents. Je pense que c'est aussi un peu un hommage que vous vouliez rendre à cette communauté, n'est-ce pas?
Oui, ben, c'est finalement une histoire de village. Il n'y en a pas beaucoup qui ont été faites de manière sérieuse. On a des clients, des ouvrages plutôt limités, mais là, vraiment, on a un 250 pages illustré avec une recherche fondamentale assez importante pour comprendre l'établissement et l'évolution de communautés franco-ontariennes comme celle-là. Dubreuilville est unique, justement, parce que c'est un village privé. Ça a été un village privé jusqu'aux années 1980. Donc, il y a quand même...
Donc, c'est pas très, très longtemps, là. Ça fait pas très, très longtemps.
Non, oui. C'est ça. Il y a beaucoup de choses qui sont récentes.
Oui.
Il y a encore des pionniers qui sont arrivés, qui ont vécu dans les camps forestiers du Breuil, qui faisaient du camping là, essentiellement pendant quelques années en établissant le village. Il y a des gens qui ont vécu cette expérience-là, qui sont encore des nôtres. Ce sont ces gens-là, en particulier, que j'ai pu interviewer. D'autres avaient vu le jour à Dubreuilville, mais finalement, c'est une histoire de pionniers d'un village qui doit se réinventer avec la crise du bois d'œuvre dans les années 2000 et qui doit se ressourcer ailleurs. Donc, l'histoire porte beaucoup sur les années 60, 70, même 1940 et 50, mais arrive jusqu'à nos jours pour finalement parler de ces communautés-là, monnaies industrielles, lorsqu'on ne peut plus dépendre d'une industrie comme le bois d'œuvre.
Oui. Alors, c'est un livre à lire absolument. Je trouve ça fascinant. En même temps, un peu triste, parce que j'aimerais pas ça que des historiens comme vous parlent d'une communauté en voie d'extinction en Ontario. Parce que ça va donner raison à ces détracteurs de la communauté francophone. C'est une communauté riche qui est en train de se transformer. Et j'ai l'impression qu'il faut bien connaître l'histoire, connaître le passé pour aller de l'avant, pour mieux sauter, comme on dit. Et d'ailleurs, ce qui vous intéresse et qui m'intéresse aussi particulièrement, c'est vous êtes très, très centré, je pense, sur les minorités francophones d'Amérique du Nord et le Québec. On a besoin d'avoir ce dialogue et de comprendre l'histoire de tous ces peuples francophones de l'Amérique du Nord, parce que malheureusement, dans certaines régions, surtout aux États-Unis, on n'a qu'à voir les statistiques, c'est pas très, très réconfortant, hein, malheureusement.
Oui, et je dirais que c'est un angle mort aussi de l'histoire. Ça fait pas longtemps que c'est un champ d'études.
Voilà.
Que de regarder à l'histoire des minorités francophones, de leur particularité, de leur trajectoire. Chacune d'entre elles est unique. Et finalement, ça nous permet de voir un peu plus clair par rapport à cette volonté de vivre ensemble-là, les possibilités pour le fait français en Amérique.
Oui.
Il y a des lieux qui sont plus accueillants, il y a des lieux où on peut faire société plus facilement qu'à d'autres endroits. Il y a des communautés diverses, mais quand même passablement éclaté comme celle de la communauté francophone de Toronto, par exemple. Et il est important de ne pas essayer de dépeindre la totalité des francophonies à l'extérieur du Québec d'un seul jet. En fait, elles sont toutes particulières. Il est probablement plus sage de parler des francophonies au pluriel pour comprendre finalement que ça a pu exister des lieux comme Dubreuilville. Et ce n'est pas une communauté qui est devenue un village fantôme. Il y en a des villages qui sont en train de disparaître, mais pas celui-là. Et il a cherché à se revitaliser et est en train de réussir son pari dans une certaine mesure. Donc, au lieu de parfois mépriser l'expérience de gens qui ont des difficultés, comme Denis Bombardier, par exemple, l'a fait il y a peut-être un mois, je pense qu'on a un devoir de comprendre puis d'apprécier finalement ce qu'on réussit à faire et puis les aspirations des gens pour faire preuve d'une certaine certaine empathie à leur endroit.
Merci infiniment. Les Dubreuil et le Bois, une histoire de Dubreuilville à lire absolument, madame, monsieur. Vous allez avoir du plaisir. Vous allez vous plonger dans l'histoire de ce Sainte-Marie qui n'est pas très loin d'ailleurs des États-Unis. Hein. Alors, à la frontière des États-Unis. Et c'est bien sûr Serge Dupuis, spécialiste de l'histoire sociale, politique et intellectuelle des minorités francophones en Amérique du Nord, ainsi qu'à leur rapport historique au Québec. J'espère et je souhaite que vous serez des nôtres tout au long de l'année pour nous aider à comprendre, à cheminer dans cette petite et grande histoire de francophones en Amérique du Nord. C'est fascinant, et surtout la façon, votre approche. Et vous êtes jeune encore, vous avez beaucoup de projets et d'avenir devant vous, sans doute. Hein?
Oui, j'espère que ce ne sera pas le dernier.
Écoutez, de la part de toute l'équipe, je vous remercie. Les gens peuvent aller sur www.prisedeparole.ca et avoir tous les renseignements. On se parle très prochainement, Serge Dupuis. Et merci encore d'être des nôtres aujourd'hui.
Ah, ben, merci à vous, merci de l'invitation.
Au revoir. Wow. Eh oui, Bob Marley, qui revient, madame, monsieur. Très vivant, grâce à l'UNESCO. Il fait partie maintenant de ce patrimoine culturel. Il était temps, il était temps. Et oui, madame, monsieur, je remercie tous ceux et celles qui nous ont envoyé des messages la semaine prochaine à ne pas rater. Hein, on va parler avec tous ces gens exclus de la communauté franco-ontarienne et qui n'étaient pas à l'émission Tout le monde en parle. Ils sont plusieurs, ils veulent passer à la radio pour donner leurs mots. Ils n'ont pas tout dit encore sur la crise linguistique en Ontario français. Et à ne pas rater une émission palpitante dimanche prochain. Merci à madame Mélanie Jodon, directrice Action Traitement à Paris. Et Richie J, artiste haïtien, merci d'avoir été là. Elisabeth Drapeau, sa représentante artistique qui était avec lui. Madame Shanda Gibson du Théâtre français de Toronto. Allez, allez, nous avons une paire de billets pour vous ce mercredi qui s'en vient pour la pièce Les Inspirés. Et Serge Dupuis en direct de Québec. Et l'édition, les éditions Prise de Parole, Sloan, Radio France Internationale, DJ Devera, merci, bonne semaine et à dimanche prochain.
CIUT 89.5 FM, the station that brings you a celebration of